Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Ce sont bien les politiques qui font la loi, mais ce n'est pas la haute fonction publique qui fait la loi et qui parfois peut court-circuiter les politiques.
Les parlementaires ont fait plier Matignon. Jean Castex renonce à ce qu'une commission indépendante réécrive l'article 24 après le tollé aujourd'hui dans les rangs de la majorité. Le gouvernement sous pression au sujet des violences policières. Les images de l'agression de Michel Zecler nous font honte, réagit ce soir Emmanuel Macron. Au centre des critiques, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, n'entend pas céder sur l'article 24. Pas question de supprimer le texte controversé. La délivrance pour les commerçants, ils espèrent repartir sur les chapeaux de roue à partir de demain. Mais ce ne sera pas simple avec le nouveau protocole sanitaire. Délivrance aussi pour les promeneurs et les sportifs. On pourra sortir jusqu'à 20 km autour de chez soi et ce, pendant 3 heures. Dans ce journal également, l'appel à la générosité des Français. La collecte annuelle des banques alimentaires a démarré aujourd'hui. Et bonne nouvelle, les dons sont en forte hausse. Et puis le foot, deux rencontres ce soir. L'équipe de France féminine face à l'Autriche. Le score, Cyril de la Morinerie ?
2-0, la deuxième mi-temps va reprendre en faveur de l'équipe de France, bien sûr.
Et puis chez les hommes, le Racing Club de Strasbourg affronte le Stade Rennais. Le score, Patrick Muller ?
1-0 pour Strasbourg face à Rennes. C'est la pause.
Merci messieurs et à tout de suite. La météo de demain, journée automnale, très agréable sur l'ensemble du pays, à l'exception du sud, où là, le temps reste agité avec des fortes pluies, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en hausse, plus 0,56% à 5 598 points. Et tous les détails à venir avec Didier Hameau de Boursier.com. Et puis l'interview écho, dans 20 minutes, les notaires prédisent une baisse des prix de l'immobilier en Ile-de-France pour la première fois depuis 8 ans. Est-ce que les agences immobilières confirment ? Eh bien, c'est la question que posera Emmanuel Duteil à Laurent Vimon, son invité, président de Century 21.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Parlement 1, Matignon 0. La commission indépendante voulue par le Premier ministre ne sera finalement pas chargée de réécrire l'article 24 à la place des députés et sénateurs. L'annonce hier soir de Jean Castex avait provoqué un tollé, tant au Sénat qu'à l'Assemblée, même dans les rangs de la majorité, d'où cette volte-face du gouvernement Jean-Rémy Baudeau.
Oui, on a vécu une journée un peu folle d'un point de vue politique et institutionnel. Reprenons brièvement. Hier soir, le Premier ministre annonce qu'il met en place, sur proposition de Gérald Darmanin, une commission pour tenter de réécrire l'article 24 décrié, celui de la loi sécurité globale. Une manière de sortir par le haut, sauf que de très nombreux députés commencent publiquement à fustiger cette idée. Le gouvernement se déchire en interne. Selon nos informations, hier soir, même Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, en visite à l'Élysée, alerte Emmanuel Macron sur le sujet. Ce matin, finalement, les deux présidents des deux assemblées s'opposent chacun à leur tour à cette commission, dénoncent une entrave aux droits du Parlement. Matignon répondant l'après-midi, l'idée est enterrée, la commission ne réécrira pas cet article. Alors tout ça peut paraître un peu technique, mais il faut comprendre ce qui s'est joué récemment. Cet article 24, il n'était pas dans la loi initialement, il a été rajouté par le ministère de l'Intérieur dans l'idée de soutenir les policiers. Et alors qu'il est décrié, Beauvau pousse Matignon à finalement réécrire l'article, ce qui est impossible puisque le texte a été voté à l'Assemblée et ne peut être modifié avant de passer au Sénat. Tout ça est l'illustration d'une semaine un peu folle où, mis en difficulté, le ministre de l'Intérieur a tout fait pour tenter de faire passer son texte. Pour répondre à la question initiale, l'entourage du patron de l'Assemblée résume la séquence ainsi. Ça n'est pas une reculade de Castex, c'est Darmanin, l'auteur du péché initial.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Un rétropédalage salué ce soir par Patrick Mignola, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale et membre de la commission des lois.
Moi, je vais simplement faire remarquer une chose simple, c'est que en République française, en démocratie, c'est le Parlement qui fait la loi. C'est l'Assemblée nationale qui doit modifier une loi si elle doit être modifiée, et ce n'est pas un comité d'experts. Voilà, il faut redire les choses simplement. L'Assemblée nationale n'est pas un cas contact qu'il faut isoler quand il y a un problème. Au contraire, ce sont bien les politiques qui font la loi et qui s'appuient sur la haute fonction publique. Et ce n'est pas la haute fonction publique qui fait la loi et qui parfois peut court-circuiter les politiques. L'incident est clos. De toute façon, quand on est dans une famille, il faut savoir laver son linge sale publiquement s'il le faut, parce que c'est les étincelles qui font marcher les moteurs. Il y a eu un peu d'étincelles. Bon, le moteur ne marchera que mieux dans les mois qui viennent.
Patrick Mignola, le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, joint pour Europe 1 par Adrien Beck. Cette crise politique au plus haut sommet de l'État a été précipitée par la bavure policière révélée hier. Cette vidéo ultra-violente du tabassage d'un homme noir par des policiers à Paris. Des images qui nous font honte, écrit ce soir sur les réseaux sociaux Emmanuel Macron. Le chef de l'État demande au gouvernement de lui faire des propositions pour lutter contre les discriminations. Les quatre fonctionnaires impliqués policiers sont ce soir en garde à vue dans les locaux de l'IGPN, la police des polices. Trois d'entre eux sont entendus notamment pour violence à caractère raciste. Tous ont été suspendus à titre conservatoire et si la justice conclut à une faute, je demanderai leur révocation, assure le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin qui, depuis le début de la semaine, est la cible de nombreuses critiques. Il y a eu tout d'abord l'évacuation brutale lundi soir du camp de migrants, place de la République à Paris. Puis cette nouvelle affaire de violence policière, deux incidents où les images des interventions des forces de l'ordre ont joué un rôle déterminant. Or, c'est précisément ce que veut encadrer l'article 24 de la loi Sécurité globale. Un texte, Louis Dragnel, que le ministre de l'Intérieur n'a aucunement l'intention de supprimer.
Non, Gérald Darmanin ne reculera pas. En tout cas, c'est ce que nous dit un de ses proches ce soir. Attention à l'effet de loupe. Il a l'opinion publique avec lui et les sondages montrent que les Français soutiennent cet article 24. Objectif du ministre de l'Intérieur, afficher sa détermination malgré la tempête. Une tempête dont il est responsable aux yeux même des députés de La République En Marche. Sauf que Gérald Darmanin entend bien poursuivre sa stratégie, défendre des sujets sensibles pour faire bouger les lignes. Et son entourage l'assure, il a le soutien entier d'Emmanuel Macron. Mais à l'Élysée aussi, le ministre clive. Un conseiller n'hésite pas à dire qu'Emmanuel Macron devrait le lâcher. Il nous fait tous plonger en enfer et le président avec. Il faut arrêter avec le mythe Darmanin. D'autres, au contraire, considèrent qu'il reste un atout politique incontournable pour le chef de l'État. Et surtout dans la perspective de la prochaine campagne présidentielle. Emmanuel Macron le sait, son banc de touche est maigre pour essayer de trouver un éventuel remplaçant à Gérald Darmanin, qui, malgré les polémiques en tant qu'ancien LR, a pour mission de continuer de siphonner la droite et surtout de contrecarrer les accusations de laxisme dont Emmanuel Macron fait l'objet depuis le début de son quinquennat.
Merci Louis de Ragnel. J'ajoute que Gérald Darmanin sera auditionné lundi par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, la manifestation prévue demain à Paris contre la proposition de loi Sécurité globale a été autorisée ce soir par la justice. Elle avait été interdite dans un premier temps par la préfecture de police qui préconisait un rassemblement statique. Rachida Dati, placée sous le statut de témoin assisté dans l'affaire Ghosn, l'ex-garde des Sceaux a été auditionné hier par le parquet national financier sur les 900 000 euros d'honoraires que lui a versé une filiale du groupe Renault-Nissan, groupe présidé à l'époque par Carlos Ghosn, aujourd'hui exilé au Liban. C'est un camouflet, un de plus pour l'exécutif. Le Conseil d'État a suspendu la possibilité de recourir à la visioconférence pour les procès d'assises sans l'accord des accusés. Cette pratique avait été autorisée par une ordonnance du gouvernement qui voulait que la justice tourne malgré la pandémie. Le collectif contre l'islamophobie en France, menacé de dissolution par le gouvernement, s'est auto-dissous. Accusé après l'assassinat de Samuel Paty d'être une officine islamiste, le CCIF annonce avoir redéployé ses activités à l'étranger. Et puis le gouvernement norvégien a donné son feu vert à l'extradition d'un des auteurs présumés de l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. C'était en 1982. Ce Palestinien naturalisé norvégien est recherché par la justice française pour sa participation présumée à cette attaque qui avait fait 6 morts et 22 blessés dans le quartier juif historique de la capitale.
Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Un vent de liberté va enfin souffler en France demain. Liberté d'aller faire du shopping, on va y revenir. Liberté aussi de se balader sans avoir à compter scrupuleusement les mètres parcourus ni les minutes écoulées. La nouvelle règle, c'est 20 km autour de votre domicile, 3 heures maximum. Et ça change tout pour Valentine, une Parisienne qui a des fourmis dans les jambes.
Oui, alors ça m'inspire juste pour aller me promener dans des espaces verts un peu plus grands que ceux qu'on trouve dans Paris intramuros, quoi. Donc pourquoi pas aller à Saint-Rémy-les-Chevreuses, etc., en dessous de 20 km, quoi, pour se faire des grosses balades le samedi.
Un peu vivifiant. Toi.
Voilà, c'est ça. Juste oxygéner un petit peu plus que bah, ce qu'on peut faire ici dans Paris, quoi. Parce qu'il y a des parcs qui sont accessibles, mais on est très nombreux, quoi. En fait, le week-end, quand on va se promener au Montsouris, par exemple, on est très nombreux, donc c'est pas... Parce que je travaille auprès des personnes âgées, c'est important que je ramène pas le virus à l'intérieur des locaux, quoi.
Ce samedi marque également une étape cruciale pour les commerces dits non essentiels. Après un mois de fermeture, ils vont rouvrir avec une seule idée en tête, rattraper le temps perdu. Mais cela risque d'être compliqué tant le nouveau protocole sanitaire est strict, Virginie Salmen.
Oui, dans les centres commerciaux, il devra y avoir un contrôle à l'entrée générale et un autre à la porte de chaque magasin. Le nombre maximum de clients devra être respecté, y compris dans les allées, de façon à ce qu'il y ait 8 mètres carrés par client partout. Les commerçants devront faire attendre le surplus de clients à l'extérieur. C'est à eux de faire respecter la jauge dans leur boutique. Il y aura des contrôles, assure le ministère de l'Intérieur, et en cas de dépassement du nombre de personnes autorisées, le commerçant risque une amende de 135 euros et une mise en demeure ou une fermeture administrative partielle ou totale. Les clients peuvent aussi être verbalisés dans des cas extrêmes. Si par exemple ils forcent le passage à l'entrée d'un magasin ou bien s'ils refusent de sortir s'il y a trop de monde, ils risquent seulement dans le cas où ils violeraient intentionnellement la jauge, une amende de 135 euros qui peut être majorée en cas de récidive jusqu'à 3 750 euros et 6 mois d'emprisonnement.
Merci Virginie Salmen. La réouverture des commerces et la fièvre acheteuse qui va l'accompagner ne saurait faire oublier que cette crise plonge des millions de Français dans la pauvreté. Voilà pourquoi la collecte des banques alimentaires s'avère d'autant plus cruciale cette année. La campagne nationale a débuté aujourd'hui. Le principe est simple, vous le connaissez, vous faites vos courses et vous achetez en plus ce dont vous avez besoin, quelques articles que vous remettez à la sortie aux bénévoles. Et la bonne nouvelle, c'est que les Français sont cette année particulièrement généreux, comme l'a constaté Pierre Herbulot dans un supermarché parisien.
À l'entrée du supermarché, les grands sacs prévus par la banque alimentaire se remplissent de dons à vue d'œil.
De la boîte de ravioli,
des pâtes,
du haricot, des céréales, du riz,
du chocolat,
du poisson en conserve.
Vincent porte le gilet rouge des bénévoles. Il a multiplié depuis ce matin les allers-retours entre le supermarché et le centre de tri.
Ça démarre très bien. On est déjà à plus 50% par rapport à l'année dernière, le même jour. Et le vendredi est un grand jour pour la collecte alimentaire. Donc là, ça démarre très très bien. On est bien parti.
Alors, ce n'est que le premier jour. Ce n'est qu'un point de collecte. Il faut donc relativiser. Mais c'est vrai que les donateurs comme Aurélie semblent avoir conscience de l'urgence de la situation avec la crise sanitaire.
Je vais donner un petit peu plus et c'était important de participer à cette collecte. Oui, bah, cette année, ça a une raison particulière. On sait que la pauvreté explose et on voit bien que dans les associations, il y a de plus en plus de bénéficiaires.
On fera les comptes lundi matin. D'ici là, Laurence Champier, directrice générale du réseau des banques alimentaires, n'a qu'un seul message à faire passer.
Donner, 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 la solidarité, c'est ce qui doit rester dans cette crise et qu'on se mobilise tous pour venir en aide aux plus précaires.
Et pour ceux qui évitent les magasins, cette année, la collecte se fait aussi en ligne sur le site monpaniersolidaire.org.
Pierre Herbulot, la SNCF devra rembourser automatiquement les abonnements des usagers de trains de banlieue parisiens qui, s'ils ne sont pas assez ponctuels, c'est ce qu'annonce Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Si la ponctualité est inférieure à 80% pendant 3 à 5 mois sur une branche, y compris en cas de grève, alors les usagers seront remboursés d'un demi-mois. On termine avec le foot et ces deux rencontres que l'on suit ce soir sur Europe 1. On commence avec vous, Cyril de la Morinerie. Vous êtes à Guingamp où l'équipe de France féminine affronte l'Autriche pour une place à l'Euro 2022 et ça se passe plutôt bien pour les Bleus.
Oui, ça se passe très très bien même puisqu'elles mènent 2 à 0. Elles sont en tête grâce à leur jeu de tête, 56 minutes de jeu, parce que d'abord à la 10e minute, il y a eu un corner, très beau corner avec un ballon qui arrive sur la tête de Wendy Renard qui arrive lancé, qui envoie vraiment le ballon sous la barre. C'est très bien joué de la part de la défenseuse, 122 sélections et son 25e but ce soir avec le maillot bleu. Et puis à la 28e minute, cette fois c'est un centre de Cascarino qui arrive sur la tête de Marie-Antoinette Catoto qui met donc ce ballon au fond des filets. Et les Françaises vraiment qui ont la maîtrise de ce match, elles n'ont consolidé que très très peu d'occasions en première période. Deux fois les Autrichiennes sont venues dans la surface de réparation et là elles ont même eu les Françaises encore un coup franc. Elles maîtrisent vraiment pour aller décrocher, si le score eh bien, se confirme, leur ticket, donc leur place pour l'Euro 2022 qui se déroulera en Angleterre et c'est très très bien parti sous le regard du président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, qui est en tribune puisqu'il est chez lui. Nous sommes à Guingamp au stade de Roudourou. Voilà, le score est en faveur des Français, 57 minutes de jeu, 2-0 pour les Bleus face à l'Autriche.
Merci Cyril de la Morinerie à Guingamp pour Europe 1. Direction maintenant Strasbourg pour ce match masculin. Cette fois, les Alsaciens affrontent le Stade Rennais, 12e journée de Ligue 1. Rencontre que vous nous faites vivre, Patrick Muller.
Ah, effectivement, c'est la 53e minute ici dans une méno à huis clos, comme vous pouvez peut-être le percevoir. 1-0 pour Strasbourg. Le but a été inscrit tout à l'heure à la 23e minute par Adrien Thomasson, à l'origine d'une frappe contrée d'Habib Diallo. Kenny Lala est sur le côté droit pour récupérer ce ballon. Le centre fort au premier poteau et Thomasson donc qui vient couper assez intelligemment la trajectoire du ballon et les Strasbourgeois qui ont été en réussite sur ce coup-là, mais qui ont perdu leur capitaine dès la 40e minute, Stefan Mitrovic, le défenseur serbe, qui a fauché Guirassy, l'attaquant rennais en position de dernier défenseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les Strasbourgeois évoluent à 10. Ils mènent au score néanmoins, mais ils sont un petit peu en difficulté sur le début de ce deuxième acte, même si les Rennais ne sont pas extrêmement inspirés ce soir. Il faut rappeler qu'il reste sur deux défaites en championnat, sur cette élimination à Chelsea, face à Chelsea en Ligue des Champions, et que la période est un petit peu triste pour l'équipe bretonne, alors que pour Strasbourg, si la victoire venait à se confirmer, eh bien, ça ferait un bien fou au classement. 54 minutes dans cette rencontre et 1-0 pour Strasbourg face à Rennes.
Merci Patrick Muller en direct du stade de la Méno pour Europe 1. Patrick à Strasbourg et Cyril à Guingamp que l'on retrouvera à la toute fin de cette édition. La météo, trois départements sont toujours ce soir en vigilance orange pluie, inondation. Il s'agit des Pyrénées-Orientales et des deux départements Corse. Anissa Dadi, cet épisode pluvieux dans le sud va se poursuivre demain.
Oui, le temps sera toujours très agité, hein, Julien, demain sur les Pyrénées-Orientales, sur l'Aude et à l'est de la Corse. Les pluies sont orageuses dans la matinée. Sur la Provence, le Languedoc et l'ouest de la Corse, là, le ciel est encore très nuageux, mais les pluies sont beaucoup plus faibles. Et puis le vent d'autant se calme demain, mais attention, c'est le vent d'est qui prend le relais et qui va souffler en Corse et sur les côtes varoises. Sur le reste du pays, demain, bah, nous aurons encore pas mal de grisailles matinales dans la matinée. Et puis, au fil des heures, le ciel se dégage et le temps sera partagé entre nuages et éclaircies. Partout ailleurs, c'est une belle journée d'automne hein, demain. Les températures toujours dégelées dans le nord-est demain matin avec moins 2 à Épinal, moins 1 à Montluçon et Strasbourg, 0 à Clermont-Ferrand, 3 à Paris, 8 à Quimper et 12 à Marseille. Et puis au meilleur de la journée, nous aurons 6 à 13 degrés au nord avec 11 degrés à Paris et 13 à 18 sur la moitié sud.
Merci beaucoup Anissa Dadi.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamaud de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street a terminé ce soir sur de nouveaux sommets à l'issue d'une demi-séance très calme.
Oui, ce n'était qu'une demi-journée à Wall Street pour fêter Thanksgiving aux États-Unis, mais cela a suffi à atteindre de nouveaux sommets. Effectivement, on a un Nasdaq qui grimpe de 0,92%, 12 206 points, donc nouveau record sur le Nasdaq. L'indice S&P 500 est au plus haut aussi, plus 0,24%. Le Dow Jones n'est pas loin de ses sommets, plus 0,13%. Le Dow Jones à 29 910 points. Du côté des laboratoires pharmaceutiques, Moderna, qui fait la course en tête pour les vaccins anti-Covid, grimpe encore de 16%, 127 $, alors que son grand concurrent AstraZeneca devra encore poursuivre sa phase de test pour son vaccin. Le titre est quasiment stable ce soir. Aux valeurs de technologie, Tesla remonte encore de 2%, 585,76 $. On a quelques variations, mais pas grand-chose à noter sur Apple, plus 0,5%, sur Amazon aussi, plus 0,3%, Facebook, plus 0,8%. Le pétrole revient un cran en arrière, $48 le baril de Brent. L'euro monte encore 1,1960 face au dollar.
La Bourse de Paris a elle aussi terminé la semaine en hausse, Didier.
Oui, oui, ça monte, plus 0,56%, 5 598 points, on est pratiquement sur les 5 600 points. Le marché est resté calme, mais quelques grandes valeurs se sont distinguées, comme EDF, plus 11%, 12,99 €, en attendant la réorganisation interne du groupe EDF. Le broker Citigroup vise désormais un cours de 14,90 € contre 12,30 € auparavant, donc plus 11% pour EDF. Et puis quelques valeurs industrielles remontent encore. On a par exemple Vallourec, plus 4,5%, Eramet, plus 3,8%, ou Alstom, plus 4% ce soir.
Exception du jour, JC Deco qui a encore perdu du terrain.
Oui, c'est lourd. De nouveau, moins 2,5%, 17,89 €. Le spécialiste de la communication extérieure continue de souffrir en raison, bien sûr, de la crise sanitaire internationale. Standard & Poor's, l'agence a récemment abaissé sa perspective crédit à négative sur Deco. Le titre, donc, encore en berne de 2,5% ce soir. Sur les autres places financières, c'était très calme. Donc, le DAX à Francfort gagne 0,3%. Londres était stable. Amsterdam en hausse de 0,7%. Madrid a gagné 1%. Et donc le CAC 40 encore en hausse de 0,56%, 5 598 points.
Merci Didier Hamaud de boursier.com et à lundi Didier. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview Éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Laurent Vimont.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de Ceinturi 21, chaîne bien évidemment bien connue du monde de l'immobilier. Alors si on a voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est que l'on a appris ce matin de la bouche des notaires qu'il y avait enfin, si je peux dire, et pour la première fois depuis 8 ans, une baisse des prix pour les appartements en région parisienne, une baisse de 0,8% dans toute l'Île-de-France d'octobre à janvier 2021. Et cette baisse serait même plus marquée au centre de Paris, où là, la baisse serait d'1,2%. Est-ce que vous, déjà, du côté de Ceinturi 21, vous la voyez, cette baisse ?
Alors, pas du tout. On a communiqué les chiffres au troisième trimestre 2020, dans lequel les chiffres avaient augmenté en Île-de-France et les prix avaient arrêté de monter dans Paris intramuros. Mais pour l'instant, il n'y a pas de baisse de prix à l'horizon et se risquer un pronostic d'octobre à janvier 2021 me semble légèrement risqué. Donc, pour l'instant, nous, on n'a pas vu de baisse des prix. Le marché a été extrêmement actif après le déconfinement. Il est à nouveau plus calme depuis le début du mois de novembre, mais les projets repartent. Et pour l'instant, j'ai pas de baisse de prix dans les tableaux de bord que je regarde tous les matins.
Pas de baisse de prix, mais en revanche, ce que vous dites, c'est au minimum une stabilité des prix sur Paris intramuros. Donc malgré tout, c'était un marché qui était jusque-là un peu un marché de folie avec des hausses qui n'arrêtaient pas. Il y a quand même une sorte de point d'arrêt.
Là, il y a effectivement une pause marquée à Paris et sur les volumes de vente, moins 17% au troisième trimestre 2020. Et en Ile-de-France, en revanche, un marché extrêmement dynamique avec des hausses des volumes de vente, plus sur les maisons qu'appartements, mais un marché extrêmement actif.
Alors, on va voir justement comment ça va se comporter dans les mois à venir. Ce qui est intéressant quand même dans ce que disent les notaires, c'est que là, ils parlent uniquement des appartements. Parce que justement, pour eux, il y aurait une demande très importante et là, les prix augmenteraient fortement pour les maisons en petite couronne, c'est-à-dire au-delà de la périphérie de Paris. C'est votre sentiment aussi que depuis cette crise, depuis ce confinement, on cherche au-delà de Paris et au-delà peut-être même des grandes villes, des maisons un peu autour ?
Il y a un phénomène de gentrification, effectivement, qui amène quelques Parisiens à quitter Paris pour avoir une maison et un morceau de jardin en première couronne. Et les mêmes en première couronne qui cherchent aussi, qui quittent un appartement pour la seconde couronne. C'est effectivement un phénomène. Maintenant, il ne faut pas rêver. Tous les gens en appartement ne vont pas habiter en maison. Mais il y a effectivement une tendance. On a observé au troisième trimestre une hausse de 19% des ventes en Ile-de-France.
Alors on va regarder dans un instant comment se porte le marché, parce que déjà, il y a une bonne nouvelle. Ça y est, ça repart officiellement les visites. Vous allez pouvoir, vous aussi, recommencer à véritablement travailler.
C'est ça, à partir de demain, minuit, on va le dire comme ça, les visites redeviennent possibles dans des comptes sanitaires qui ont été renforcés, avec une visite possible par demi-journée, une seule personne à la fois, maximum 30 minutes, en respectant bien sûr les gestes barrières et le port des masques. Mais c'est une bonne nouvelle, les clients vont enfin pouvoir recommencer à visiter des logements pour se loger.
Alors soyons très honnêtes. Certes, c'est renforcé, mais enfin bon, personne ne va venir vérifier qu'on fait une visite de 44 minutes ou qu'on en fait deux dans la matinée.
C'est vrai, mais il faut être raisonnable. Et puis, on a pris les engagements, il faut les tenir. Alors, il est vrai que quelques minutes ne vont pas changer la vie de la visite, mais j'invite la profession à être raisonnable et à appliquer ses règles.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, le marché est en train de repartir. Là, vous le sentez, ça s'est fortement arrêté, je crois, dans les premiers jours de ce deuxième confinement. Mais vous sentez que là, déjà, il y a une demande, il y a une reprise ?
Il y a une très très forte demande et ce qui est très intéressant, c'est que les requêtes sur le site de la marque Ceinturi 21 qui avait baissé de 70% lors du premier confinement n'ont baissé que de 15% lors du deuxième. Donc les clients sont derrière leur écran et sont à la manœuvre et ont envie de visiter parce qu'acheter un logement, c'est pas acheter une baguette de pain, et j'ai rien contre les boulangers, c'est un projet de vie qui ne se stoppe pas en 15 jours, 3 semaines. Donc tous ces projets ont été mis au chaud et ils vont démarrer dans les jours qui viennent à partir de demain.
On sait que la crise économique pourtant n'est jamais un bon moment pour le marché immobilier, parce que soit les vendeurs attendent un petit peu en disant voilà, on sait jamais, les acheteurs sont pas obligatoirement tous là parce qu'ils se disent oh là là, si je perds mon travail, est-ce que je vais pouvoir financer mon bien immobilier. Il n'y a pas d'inquiétude pour vous sur le marché en ce moment?
Il faut rester très vigilant, mais il faut aussi rappeler que ce qui tient le marché, ce sont des taux extrêmement bas, historiquement bas, et que les Français qui veulent être propriétaires nous rappellent régulièrement que dans tous les cas, ils ont un loyer à payer. Et qu'entre un loyer et un crédit avec un taux bas, il y a une différence qui est parfois assez faible et qu'ils estiment qu'il est plus prudent d'être propriétaire que locataire. Dans les deux cas, même si le chômage arrive, ils auront une charge à payer mensuelle. Et ils considèrent que vis-à-vis de la banque, avoir un crédit, c'est peut-être plus de poids pour négocier qu'avec un bailleur et un loyer.
Alors, en revanche, on sait sait que les conditions pour obtenir un prêt sont plus dures, pas obligatoirement à cause des banques, mais à cause des nouvelles normes, hein, puisque les autorités ont dit qu'il n'est plus question de passer la barre des 33% de taux d'endettement. Et quand même, beaucoup de gens sortent du coup du marché, notamment ce qu'on appelle les primo-accédants, les jeunes qui arrivent. C'est plus compliqué pour eux en ce moment, notamment dans les grandes villes.
Ça a été très facile en 2019. On dirait que les planètes étaient extrêmement bien alignées. Et il faut rappeler qu'effectivement, il y a une espèce d'hérésie économique. C'est qu'on se contente d'analyser le dossier sur les 33%. Ce qui compte, c'est le reste à vivre.
Bien sûr.
Et il est évident qu'entre 3 000 euros de revenus et 6 000 euros de revenus, il y a un reste à vivre qui est différent. Et donc, se contenter de mesurer l'endettement du client sur 33%, c'est limiter effectivement l'accès à la propriété en France. Et nous sommes nombreux à encourager le Haut Conseil à revoir cette position et à travailler les dossiers non pas sur les 33%, mais plutôt sur le reste à vivre.
Est-ce que cette crise vous a obligé à réinventer votre métier ? C'est ce qu'on voit dans plein de professions. Vous avez accéléré plus que jamais sur les visites virtuelles, sur une nouvelle façon de visiter un bien immobilier. C'est allé beaucoup plus vite que ça aurait été le cas s'il n'y avait pas eu ces crises.
Alors nous, on avait commencé il y a 8 ans déjà, on n'a pas attendu les crises pour réagir, parce que c'est jamais une bonne idée de réagir quand il y a des crises, on avait anticipé. Néanmoins, ce qu'il faut rappeler, c'est que la visite virtuelle d'un logement, c'est comme l'amour virtuel, c'est-à-dire que ça reste virtuel et ça ne permet pas de choisir ni sa moitié, ni son appartement et sa maison. Et que les gens ont besoin de voir, ont besoin de toucher, de sentir un logement. Donc ça permet de faire des sélections, ça ne permet pas d'acheter en direct, et il y a très très peu de ventes qui se réalisent uniquement avec des visites virtuelles. La plupart des ventes qui ont été faites d'ailleurs l'ont été avec une condition suspensive qui ferait qu'elle avant de passer chez le notaire, il fallait une visite physique du logement pour le confirmer.
Mais c'est un peu, par exemple, si on compare au monde de l'automobile, aujourd'hui, les clients qui rentrent dans les concessions ont tout regardé sur Internet. Souvent, ils connaissent très très bien la voiture qu'ils veulent acheter. Et du coup, un client qui rentre est quasiment un acheteur. C'est un peu pareil une fois qu'on va visiter un bien immobilier qu'on a déjà bien observé en visite virtuelle.
On a éliminé ce qu'on ne voulait pas visiter, c'est parfois d'ailleurs une erreur, parce que 70% des demandes de clients sont différentes entre le début et la fin de la découverte. Donc il faut être là-dessus très très prudent. En revanche, ça permet d'avoir un bon niveau de connaissance des prix. Mais sur les logements dans l'ancien, ils sont tous différents les uns des autres. Et avant d'acheter, les gens veulent visiter.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces détails. C'était Laurent Vimont, le président de Ceinturie 21. Nous, on se retrouve lundi 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr.
C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Et on termine comme promis avec le foot, direction Guingamp, où l'équipe de France féminine vient de creuser le score face à l'Autriche. Ah, Cyril de la Morinerie.
Vous tombez pile poil. Magnifique but encore de l'équipe de France qui mène désormais 3-0. Elle porte le ballon, elle est tout sourire. Katoto vient de réaliser le doublé à la suite de ce corner. Voilà le speaker qui s'égosille, même s'il n'y a pas de spectateur, il est heureux. C'est un événement, et donc le doublé pour Katoto. Le premier but pour l'équipe de France avait été marqué par Wendy Renard, des Françaises qui ont eu l'occasion aussi de creuser le score tout à l'heure avec un poteau de Katoto, la buteuse, et puis également un poteau de Cascarino. Voilà, ça fait deux poteaux, trois buts, ça aurait pu faire 5-0. La messe est presque dite pour cette équipe de France qui devrait donc se qualifier pour l'Euro 2022. Il y aura un match, allez, pour le... elles vont peut-être marquer un quatrième but là, non, ça ne marche pas, et il y aura un dernier match pour les Français. Ce sera contre le Kazakhstan mardi à Vannes. 3-0, 73 minutes de jeu.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. On va maintenant au stade de la Méno pour ce match masculin, cette fois de Ligue 1, Strasbourg-Rennes. Et les Rennais sont revenus au score, Patrick Muller.
Ah, effectivement, cette égalisation signée Adrien Hunou tout à l'heure à la 59e minute. Strasbourg menait au score, hein, but de Thomasson à la 23e, but signé donc inscrit plutôt en première période, et donc cette égalisation avec Hunou qui reprend victorieusement au second poteau un second ballon qui traînait. Il est décisif sur ce coup-là, le coup de tête qui fait la différence, et la menace rennaise qui se précise avec cette énorme occasion, cette frappe puissante de Léa Siliki et cette superbe claquette de Kawashima, le portier japonais de cette équipe strasbourgeoise, pour mettre ce ballon en corner. On rappelle que Strasbourg évolue à 10 et c'est Rennes qui clairement maîtrise cette deuxième période, 69 minutes et 45 secondes, un partout entre Strasbourg et Rennes.
Merci beaucoup Patrick Muller en direct de Strasbourg pour Europe 1.
Europe 1.